So the promise I can make is that at Full Gear, I will give you everything. I will give you my heart. I will give you my soul. I will give you every fiber of my being. I will give you my blood. I will give you my sweat. And one way or the other, I feel like I may give you my tears. The one thing, though, that I am 100% sure about is that at Full Gear, I will give you cowboy shit.
Oh, drop kick, coup de la corde à linge. Oh, oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez CatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et haute puroresu japonais. Ah, c'est parti.
John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion.
But I know you people don't understand what kara nai daro.
Cette superbe envoi balance une troisième porte de ton camp,
Philippe. Parce que ça va vite, ça va.
Cette fois-ci, on est là tous les deux.
Oh oui,
Overrage qui est passé.
Balance une troisième porte.
Mais c'est pas tout, regardez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du CatchaCast. Eh bien aujourd'hui nous sommes à 3, los tres, ou le trio de los amigos de la muerte, del final edition. Et avec moi j'ai un retour, vous l'attendiez tous, Raphaël.
Bonsoir Eddy, bonsoir à tous.
Voilà, qui brave l'énergie, le parfois même le manque de sommeil, nous dirait-on dans l'oreillette, et il est avec nous. On en profite pour faire un coucou intersidéral à Laure également, qui est comme toujours dans nos cœurs. Et j'ai avec moi également Félix.
Salut, salut.
Et on va vous parler, avec moi-même, votre hôte, hein, que je n'oublie pas de me présenter, Mehdi, de notre review. Hein, c'est tout frais, c'est tout chaud, on l'a vu un peu plus tôt dans l'après-midi, de Full Gear. Donc le dernier show, dernier pay-per-view, hein, si on appelle encore ça comme ça, oui, toujours, hein, donc de l'AEW. Et écoutez, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'on commence par une impression générale globale? Est-ce que on se lance directement sur les matchs, succession de matchs les uns après les autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je tends les micros, je vous laisse vous en saisir.
Cette impression globale, ouais, pour commencer, la température un petit peu,
qu'on a ressenti. Dis-nous tout.
Bah, moi, j'ai bien kiffé. Bon, alors, après, j'ai vu ça dans des circonstances un peu particulières, hein, comme je vous ai dit. Peut-être on reparlera de la durée, tout ça. Oui. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Moi, j'étais très, très diverti par ce show. Okay. Mais voilà, à vous.
Super. Et juste pour les auditeurs, donc tu regardes, t'arrives à voir l'AEW, donc Dynamite et ou Rampage toutes les semaines, ou enfin comment ça se passe?
Ouais. Alors on galère, donc Laure et moi, on galère un petit peu parce que ça fait comme voilà, donc on est jeunes parents, tout ça, donc il y a beaucoup de temps pour notre fille, mais on essaye quand même de toujours être à jour. Donc Dynamite et Rampage. Moi, j'ai un petit peu laissé tomber Rampage depuis une semaine parce que bah, c'est vraiment. Parce qu'on regarde aussi de la GCW en parallèle et des séries et des films. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, là, Rampage, moi, je vais me calmer, de même si c'est pas très long, ou alors je verrai peut-être sur ma pause midi. Et donc, ouais, on arrive toujours à être plus ou moins à jour, même si des fois on accumule un peu de retard. Mais donc, voilà. On essaye d'être à jour. Okay. Par contre, je regarde pas Being the Elite, les Countdown, tous les trucs, tous les à côté, ça, c'est ça, j'ai vraiment pas le temps.
Que le principal, quoi.
Ouais.
Bah, c'est ça qui compte. Moi, mon impression sur le show, comme on en parlait avec Mehdi juste avant d'enregistrer, plutôt bon feeling à la sortie. Mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de hype pour ce show. Peut-être, je ne sais pas si c'est plus ou autant ou moins que pour All Out, parce que All Out, il y avait d'autres enjeux. Il y avait le premier match de CM Punk, il y avait les possibles arrivées de Bryan Danielson, Adam Cole, et finalement qui se sont arrivés. Et donc j'avais beaucoup de hype, surtout qu'il y avait un main event très attendu. Mais voilà, donc ça a plutôt bien marché dans l'ensemble, mais c'était pas non plus le climax du catch.
Plus nuancé, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pay-per-view solide, moi je dirais. Ça résume très bien à mes yeux ce Full Gear, mais évidemment on va rentrer dans le détail. Alors après, moi je dirais pas dans mon ressenti que c'était autant attendu, parce que tu l'as reprécisé par rapport aux attentes de CM Punk et de notre cher Danielson, mais le truc c'est Danielson, comme tu aimes à l'appeler, comme ça on évacue la blague tout de suite. Mais en gros, je pense que ce qui était vraiment attendu et que c'était plus un fil rouge qu'une des attentes un peu globales réparties partout, c'était évidemment le main event par lequel on terminera Hangman Page face au champion en titre Kenny Omega. On va
Ah,
se lancer. Oui,
excuse-moi,
excuse-moi.
l'esprit, il y avait quand même pas mal de hype sur plusieurs gros matchs aussi. Bah, genre MJF Kingston, même si la storyline n'est pas vieille, enfin, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup de hype sur celui-là. Et sur Miro.
MJF Darby
Non,
Allin, tu veux dire?
qu'est-ce que j'ai dit?
T'as
Non,
dit
non,
MJF Kingston.
Kingston CM Punk,
Kingston
pardon.
CM Punk, ouais, d'accord. Ok.
Pardon, je mélange tous les matchs,
Mais
c'est la fatigue.
ne t'en fais pas, ne t'en fais pas.
celui-là, et donc, est la finale de l'Eliminator Tournament aussi, quand même, Miro Danielson.
Ouais.
Parce que j'ai cru dire un peu quand tu regardes un peu sur net par-ci par-là, j'avais l'impression que les gens attendaient pas mal ces deux matchs en plus du main event, évidemment.
Oui, c'est plus, je pense, une aura globale quand je disais que c'était pas aussi attendu que des arrivées, forcément. Mais on va pas comparer la comparable, tu fais bien de le souligner plutôt sous cet angle-là. On va commencer, vu que Félix nous a préparé, et je le cite, on n'est jamais mieux servi que par soi, la carte sous vos yeux, en tout cas les nôtres ébahis. Et on a effectivement une première entrée en date, mais tu vas même. Alors, c'est pas, je dis pas, dit comme ça fait un peu le mec qui fait patate chaude, mais c'est simplement que ce sera plus pratique parce qu'aujourd'hui, on vous le dit rapidement, vous le ressentrez peut-être en termes dynamiques du côté de Félix et moi-même, ayant eu un souci avec mon enregistreur habituel. N'avons pas chacun notre micro. C'est pas un problème du côté de Raphaël qui pourra réagir de manière dynamique comme on le connaît et comme on l'aime tant, mais ce sera peut-être un chouïa moins fluide avec des micro-temps de transition. Donc voilà.
Ah, tu couperas tout ça au montage de toute façon.
Ou pas. Donc oui, on commence. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Raph, mais il y avait le tag team match féminin dans le
Il y a
pré-show.
le pré-show. Non, j'ai pas regardé le pré-show.
D'accord. Et donc il y avait en tag team, il y avait Hikaru Shida et Thunder Rosa contre Jamie Hayter et Nyla Rose, avec Shida et Rosa qui sont victorieuses. C'était un match, voilà, un peu promotionnel pour le TBS Championship Tournament qui continue inlassablement à l'AEW. J'imagine que la finale, ce sera peut-être le premier show le 5 janvier, le premier show Dynamite sur TBS, quand aux États-Unis le show changera de chaîne. Il reste dans le même groupe médiatique, mais il change de chaîne, tout simplement. Rampage, lui, restera sur TNT. Voilà, et puis dans le pré-show, on avait aussi un petit truc avec Dante Martin où tout le monde essayait de le recruter, mais lui, voilà, il va rester avec son poteau Lio. Et ensuite, on enchaîne sur le premier match.
Juste avant, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que, comme ils ont pu le faire récemment dans ce fameux show de Power, j'ai oublié malheureusement le nom, Empowered, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'ils vont marquer le coup en faisant un show intégralement féminin le jour de cette première? Je pense que ça me paraît un peu gros hein, pour assurer,
Ça
surtout sur une nouvelle
m'étonnerait, ouais,
chaîne.
non, ça
Ouais, toi
m'étonnerait.
aussi, Raphaël, tu disais ça comme ça?
Ouais, je pense pas. En plus, leur roster, enfin voilà, tout le monde le dit tout le temps, mais leur roster féminin, il est quand même pas super solide, à mon sens. Et je pense qu'ils le savent, au final, et ouais, donc ça m'étonnerait.
Ouais, justement, Tony Khan, il a dit des petites choses en conférence de presse pré-pay-per-view. On lui a posé la question, est-ce que pour lui, la division féminine, ça restait la faiblesse de la Fédé encore aujourd'hui? Et il disait, non, pour moi, on continue de recruter des gens, Ruby Soho et compagnie, Jamie Hayter, pour justement combler le manque. Ça se fait progressivement et puis il parle du TBS Championship qui va donner un peu plus de temps à l'antenne au final aux catcheuses. Et il disait notamment que bah ouais, il avait envoyé plein de catcheuses pour ce show NWA, là, Empower, qu'il les avait payées, parce que normalement quand on prête entre guillemets des catcheurs ou des catcheuses, c'est la promotion qui les reçoit, qui traditionnellement paient pour tout ce qui est avion et qui paient leur performance. Et là, c'est lui qui s'est proposé de les payer. Et il a dit bah, que, à son sens, la NWA, donc de Billy Corgan, hein, de Smashing Pumpkins, la NWA n'avait pas assez communiqué sur le fait que c'est lui qui avait payé. Bon, c'est un peu.
C'est un peu ambivalent de dire je le fais et puis de venir dire quand même, ce serait bien que tu le soulignes, mec.
Ouais, c'est ça, c'est un
Oui,
peu.
il trouve qu'il n'y a pas eu trop de retour d'ascenseur, de ce que j'ai compris.
Ouais, c'est ça, mais.
Bon, après, on s'éloigne un peu du sujet aussi,
Oui,
c'est.
mais c'était histoire d'en parler avec vous.
Ouais.
Mais en tout cas, pour l'idée du show 100% féminin, peut-être pas pour TBS, parce que je pense qu'ils veulent mettre tout pour faire une bonne première. Mais un show 100% féminin, je pense que ça peut se faire. Je pense que c'est un truc qu'ils auront envie de faire, ne serait-ce que pour marquer le coup, pour. Voilà, je sais pas, peut-être pour recruter d'autres personnes, pour mettre en avant des catcheuses, parce que mine de rien, il y a aussi des catcheuses à la EW qu'on voit plus, enfin en tout cas plus à Dynamite ou à Rampage, genre.
Oui, c'est vrai, on en parlait avec Laure, effectivement. Genre, vous avez des nouvelles de Big Soul?
Ouais, voilà, par exemple, bah elle continue de catcher à Dark et compagnie, mais c'est tout.
Ah ouais? J'avais même plus l'impression de la voir dans les petits bandeaux des résultats de Dark et de Elevation.
Ouais, peut-être qu'en ce moment elle catche moins, mais en tout cas elle est toujours là. Donc, il y en a d'autres, hein, Leila
Bah, ils
Hirsch.
avaient commencé à builder, ouais, bah, Layla Hirsch, exactement. Ils avaient commencé à la builder et pareil, elle a disparu.
Enfin voilà.
C'est pour ça que moi, je me demande, j'ai la même l'impression qu'ils n'ont pas foi dans leur division féminine des fois, quoi.
Non, mais on sent quand même qu'ils essayent de pusher certaines. Enfin, Jade Cargill, par exemple, c'est l'exemple
Oui,
le
ça,
plus
clairement.
flagrant, mais il y en a d'autres, je pense. Bah, et puis Britt Baker, il continue de la considérer comme une star, quoi. Donc ça, c'est
Ah oui, non,
plutôt
mais après, je dis
positif.
pas
Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, c'est
qu'ils
pas.
l'abandonnent non plus, leur division. Mais il y a quand même qu'en général, un match féminin par show,
Ouais,
Dynamite,
ouais. Ça, c'est un
Rampage, il
peu.
n'y en a pas tout le temps. C'est bon.
Ça, c'est un peu regrettable, je suis d'accord. Faudrait qu'il passe à deux matchs par pay-per-view et puis deux storylines, quoi, au moins, enfin, c'est le minimum, quoi.
Ouais, puis des trucs un peu plus solides que Bunny qui met des coups de comment ça s'appelle, de poing américain.
Ouais, c'est ça. Mais après, ça, c'est un autre débat, mais il y a quand même beaucoup de redondance au niveau narratif et créatif. Hein. Le booking est bon, enfin, le matchmaking est bon, on a des super matchs à chaque fois, les choses sont fluides, mais c'est un peu toujours les mêmes séquences, les mêmes segments, c'est machin qui commence une interview puis qui se fait taper dessus. Enfin, voilà quoi. Bah, après, bon, c'est un autre sujet, comme tu nous disais, Raph. On passe au premier match, comme suggère Mehdi. MJF contre Darby Allin, c'est la moitié des Four Pillars of AEW.
Les deux principaux, d'après MJF.
Eh oui, bah oui, forcément, qu'ils se mettent dedans. Qui était en rose dragée, parce qu'on aura un autre teint de rose plus tard dans la soirée. Contre Darby Allin, seul d'ailleurs, enfin non, oui, même MJF était seul. Il n'y avait pas Sting, enfin en tout cas pas au début du match.
Ouais, Sting l'a accompagné au début de la rampe et
Ah oui, c'est vrai.
il a checké et c'est reparti.
C'est vrai, c'est vrai. Et MJF qui l'emporte, voilà, avec
Ah oui,
un petit
pas
peu
de
d'aide.
suspense, voilà, on le dit.
Avec un petit peu d'aide, voilà, qu'est-ce que t'en avais pensé, Raph?
J'ai surkiffé moi, ce match par rapport à tout ce qui. La storyline qu'ils ont construit, ça fait quoi au moins un bon mois, je pense qu'ils sont dessus. Avec le côté MJF qui essaye de briser, machin. De toute façon, ton problème, c'est le catch, tu sais. Tu peux pas catcher aussi bien que moi, tout ça. Et tout le début du match où tu vois Darby Allin, pardon, Darby Allin, justement, qui. Il le outwrestle pas, mais il est. Tu vois qu'ils sont au même niveau avec toutes les prises de miroir qu'ils font. Beaucoup de mat wrestling pour ouvrir le show, ça m'a bien fait plaisir ouvrir le match. J'ai beaucoup aimé ce combat. Bon, après, on va peut-être pas faire non plus du, comme on dit, prise par prise, quoi.
Non, bien sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que ça montait vraiment
Ouais,
crescendo.
voilà, c'est ça, crescendo, mat wrestling, après MJF qui fait son MJF de toute façon et qui gagne avec un coup de pute, avec un coup de bague, sa fameuse bague en diamant, là.
Bah oui, c'est vrai que ça reste vraiment un élément fil rouge pour MJF.
Qui
Non, c'est
gagne
clair.
avec sa bague, mais qui gagne avec une prise de catch, un headlock.
Oui, ce qu'il avait dit d'ailleurs qu'il allait le battre
Bah ouais, voilà.
avec un headlock.
Mais oui, je pense qu'on a à peu près dit l'essentiel. En général, vous savez, sur le catch à casque, on ne fait pas inutilement long et que dans ces cas-là, on vous dit allez voir le match. Là, je pense que c'est vraiment ça, Raphaël, à peu près tout résumé, que ce soit dans la construction de la rivalité, que ce soit dans le côté alpha, oméga, ombre et lumière des deux personnages, enfin, surtout comment MJF s'autoproclame, lui, du côté de la lumière, on va
Et
dire.
sans oublier comme aussi l'histoire qu'il raconte dans le match avec MJF qui se fait mal au genou en t'sais, il fait des gros assauts sur Aline et il se fait mal au genou sur un backbreaker. Et tu l'oublies un peu pendant un moment et ça revient après je sais plus sur quel move
Sur un tombstone
il se re, il se
piledriver.
prend là. Comment?
Sur un tombstone piledriver sur
Ah oui, c'est
le
ah oui,
bas-côté.
sur l'apron.
Ouais.
Et ça que ça a suivi, au final ça a pas tant joué que ça, mais quand même qu'il se soit fait chier à raconter un truc comme ça tout le long du match, j'ai trouvé ça cool. Et un autre truc aussi qui m'a étonné, alors ça, pas par rapport au catch, mais par rapport à la foule, c'était 50-50 encouragement Darby Allin et MJF, quoi.
Ouais, on l'a noté nous aussi quand on
Ça
a.
m'a vachement étonné.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas si c'est le public de. C'était dans quelle ville déjà?
Alors, c'était au Target
Minneapolis.
Center de Minneapolis,
Ouais, c'est ça, ouais.
à peu près un peu plus de 10 000 personnes, voilà, pour vous donner une
Ouais.
idée.
Alors là, ça m'a bien fait marrer d'entendre autant de gens acclamer MJF aussi fort quoi.
Ouais, ça nous a étonné
Et
nous
ce sera
aussi.
pas le seul match aussi où il y aura un truc comme ça.
Ouais, exact. Et Mehdi le soulignait quand on regardait, on oublie souvent que MJF, finalement, c'est un tueur au micro, mais c'est aussi un tueur dans le ring, quoi. Il est
Ben oui,
hyper
ouais, vu qu'il fait
technique.
son. Il fait le minimum syndical de son un match par mois.
C'est
Il
ça.
squash un mec de Dark et
C'est
du coup,
exactement
c'est
ça,
vrai
ouais.
qu'on voit pas ça.
Ouais, le gars est génial, sur tous les angles.
C'est le full package.
C'est le full package, le total package. Bon, ça, c'est Lex Luger, mais bref. Alors, attends, il y a Mehdi qui veut le micro.
C'est simplement qu'on a oublié un petit truc, mais qui est quand même assez cher dans nos cœurs, à moi et à Félix, c'est que sur le match d'ouverture, il y avait quand même une continuité de la rivalité entre Hikaru Shida et Serena Deeb, qui a été en train de la taunt tout au long du match. Donc ça a quand même son importance, vu la qualité des matchs qu'elle nous livre depuis là 2 fois, et donc troisième épisode à venir. Donc on continue. Non, tu voulais rajouter. Give me that.
C'est moi qui finis. Non, je rigole. Mais oui, non, mais pour Serena Deeb et Shida, c'est cool que ça soit pas fini. Moi, j'imagine bien un premier Iron Woman match à la EW entre les deux. Ça
Ah
serait
ouais,
vraiment
j'avoue.
cool. S'il y en a deux qui peuvent le faire, je pense que c'est les deux. Et puis pareil pour MJF Darby Allin, on sent bien que c'est pas terminé, quoi.
Ah oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question aussi. Est-ce que vous seriez chaud que ça continue, cette story?
Ouais, je pense qu'il y a plein de. Parce qu'ils ont quand même bien creusé déjà en termes de profondeur psychologique des deux personnages, etc. Mais je pense qu'il y a encore du terrain à couvrir. Puis même, ne serait-ce que par exemple, inclure Sting dans le ring, un tag team match MJF, Wardlow, Sting et Darby, ça peut le faire aussi pour continuer un petit peu.
Ouais, c'est inclus Wardlow dedans, je suis tout de suite moins chaud, mais bon, après, faut
Quand
voir.
même. Ouais, non, mais Wardlow, il a du potentiel. Il n'est pas encore au maximum de son potentiel, mais il en a, je pense. On continue, du coup. On a un Tag Team Championship match. C'est les Lucha Brothers contre FTR. Donc FTR qui leur a volé les titres par équipe de la
Ah,
AAA.
voler, voler, bah ils ont gagné, écoute, c'est voilà, ils sont champions triple A, c'est tout.
On sent le.
Le parti
Le,
pris.
voilà, le parti pris, le pressure de
Mais jamais,
FTR.
je suis objectif, c'est tout.
Bah oui, bien sûr. Et donc, dans un match plutôt dantesque, hein, quand même, ça allait un peu dans tous les sens. Bon, du coup, ça faisait un peu foutraque, mais c'était plein
Non.
d'action. C'était pas, il n'y avait pas de temps mort. Voilà, et puis au final, c'est juste la fin du match avec le délire de Cash Wheeler qui remet son masque vert là de luchador de seconde zone.
La Sranas.
Voilà, la Sranas et donc les grenouilles en français, il me semble. Et qui finalement se fait avoir par rapport à ça et les Lucha Bros en profitent pour placer leur finisher et défendre avec succès leur titre. Voilà, moi j'en ai dit plutôt ce que j'en avais pensé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Médite?
Est-ce que t'as aimé ou pas, du coup?
Ah oui, moi j'ai plutôt aimé. Mais on a vu mieux, je dirais, des deux équipes. Voilà. Mais on peut peut-être aussi là voir quelque chose de peut-être de continuer. Parce que déjà, ils sont prévus. Une revanche est déjà prévue, mais pour les titres mexicains le mois prochain à Triple Mania Regia. Donc peut-être que là, FTR va gagner, défendre leur titre ou pas, et après on aura la belle, quoi.
On fait un coucou à Sabrine pour l'accent espagnol. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Raphaël? Moi, j'enchaînerai juste derrière.
Ça va, j'ai bien aimé. Mais oui, comme tu disais, en fait, j'ai un peu de l'avis de Félix. Je crois que c'était le bordel par rapport au match d'avant.
C'est ça, ouais.
Super bien construit, bien linéaire. Après, que ce soit une qualité ou pas. Mais là, ouais, ça va aller vraiment dans tous les sens. Ça m'a un peu perdu par moment. Mais après, bon, là, l'action était super bien. Les deux teams, de toute façon, ça claque. Hein. Il n'y a pas grand-chose à jeter dans l'action in-ring. Après, c'est la construction du match en soi qui était bordélique.
Il y a un peu
et aussi,
ça.
Je tiens à souligner un truc. Ouais. J'avais jamais fait gaffe au thème de FTR. Peut-être qu'ils l'ont changé récemment. Mais ça envoie. Hein.
Je confirme.
Sais pas qui c'est, faudrait que je me renseigne.
Je confirme, ils ont changé leur thème parce que leur premier c'était le truc qui faisait oh yeah, je sais pas quoi. Voilà, qui était un peu plus grave.
C'est le thème années 80, ils sont en délire années 80 qui me plaît beaucoup.
Là c'est très synthé et en plus le thème s'appelle Dark Side of TR en référence à Dark Side of the Ring, j'imagine.
Mais pour t'emboîter le pas, moi j'ai un autre rapport sur le côté, au-delà du côté footrack, c'est très bête, hein, c'est un manque de pragmatisme de ma part, je le confesse. Excusez-moi, chers auditeurs, auditrices du Catch a Cast, j'ai mes failles, je suis un homme et j'ai des failures, comme dirait Ken Kojandi. Mais non, blague à part, j'avais encore le match qui leur a permis d'obtenir le titre dans les yeux. C'est ce qui a ajouté à cette dimension un petit peu alors chaotique, c'est un peu dur, un petit peu soufflotante comme ça du match, qui a fait que je le mettrais peut-être un tout petit peu en dessous, même si on est face à je pense qu'on peut y aller, hein, parmi deux des meilleures équipes mondiales, hein, les Lucha Brothers, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Nos amis FTR sont loin d'être des Mickey non plus, aussi, pardon. Et voilà, c'est simplement ça, c'est que j'avais vraiment le match donc où ils ont gagné le tag team, champion de tag team face aux Young Bucks, qui était encore dans l'œil, complètement fou, tellement d'émotion.
Avec toi, j'y ai pas pensé sur le moment, mais effectivement, je pense que ça joue. Ce match, c'était tellement fou que
c'est ça.
Forcément tu fais un compératif même involontaire et pareil le finish aussi tu l'as vite fait cité,
oui.
Félix mais ouais peut-être expliquer un peu où ils ont essayé pareil c'était Daxarud qui était légal, ils sont sortis du ring et ils ont mis leur masque là de grenouille pour essayer d'inverser pour que Wheeler soit le mec légal, mais ça n'a pas marché donc il s'est fait pin, mais comme l'ont beaucoup souligné les commentateurs, c'est pas le mec légal, donc la victoire était pas légale du coup. Mais au final, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu un Dusty Finish ou quoi. Enfin, l'arbitre, après, il a rien dit. Enfin, si, il a dit bon, bah, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui. Enfin, je sais pas, je me demande s'ils sont même pas plantés en fait dans ce finish. Je me demande s'il n'y a pas eu un souci.
Peut-être.
Mais bon, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça aidait pas non plus à élever le match à un niveau qui aurait vraiment pu être bien plus ouf.
Ouais, mais du coup, ils peuvent en profiter pour. Recommencer quoi.
L'histoire du coup.
Pas recommencer. Oui, voilà, c'est ça. Enchaînons. Nous avons encore du tag team sur les bras. Nous avons un False Count Anywhere match.
Bah non, d'abord il y a Miro Danielson.
Ah oui, pardon.
Quand même.
En plus, j'ai la carte sous les yeux, mais je prends un cran d'avance. Je recommence. Je recommence. Nous avons un AEW World Championship Eliminator Tournament Final. Donc le gagnant sera le nouveau challenger numéro 1 au titre AEW, qui sera décidé plus tard dans la soirée, évidemment. Bryan Danielson qui bat Miro par soumission. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme tous les matchs de Bryan Danielson,
yes
il y a du yes derrière moi. enfin, en face de moi. Mais en même temps, c'est du yes biaisé, hein, voilà. C'est un boy, donc forcément l'amour va forcément avec. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà Miro, son personnage est excellent depuis qu'il a le titre TNT. Et je vois Mehdi qui caresse son Bryan Danielson pop-up là, pas pop-up mais Funko Pop, pardon. On n'a pas de Hangman Page, hein. Enfin t'en as pas, c'est dommage. Oui, pardon, je disais donc Bryan Danielson, Miro est un personnage génial depuis qu'il a le TNT, puis même après tout ce délire avec son dialogue avec Dieu, le côté confessionnal, il faut qu'il entame sa propre rédemption pour se faire pardonner aux yeux de sa femme et pour montrer à Dieu qu'il est capable d'être toujours son champion. Malgré la haine qu'il a envers lui. Et Bryan Danielson, son personnage, c'est « Moi, je catch tout le monde, toutes les semaines, à tous les shows, et je gagne toujours différemment parce que moi, je suis trop fort, quoi. Tu vas faire quoi ?» Et là, c'était un peu ça, dans le sens où Danielson, il essayait toujours de placer une soumission différente qui lui a permis de gagner des matchs précédemment sur Miro. Enfin, des matchs précédemment sur d'autres gens, mais qu'il essayait de les placer sur Miro. Et Miro arrivait à s'en sortir à chaque fois avec violence, fracas et voilà, toute sa passion divine. Et finalement, c'est avec détermination et endurance que Danielson arrive finalement à l'avoir sur une autre soumission, encore une qu'il n'avait pas sortie jusqu'à présent, et qu'il arrive à vaincre voilà, le géant, le golem. Et donc à s'arroger un match de championnat. Qu'est-ce que t'en avais pensé, Raph ?
Ouais, moi je suis un peu partagé sur ce match. J'ai beaucoup aimé la fin. Pardon. À partir du moment où Miro taunte Bryan pour lui mettre des kicks dans le torse, qu'il est libre.
Qu'il invite à sentir ses aisselles, comme on disait avec Félix.
Ouais. Alors que tout le début du match, en fait, j'ai trouvé la construction assez bizarre. C'était super lent, enfin super lent, assez long, un rythme assez haché en fait que j'ai pas trop compris. Il y avait pas le côté technique de Bryan qu'il a pu nous montrer contre Bobby Fish par exemple, ni son côté violent qu'on avait vu contre Vega. Même si bon, du coup, c'est arrivé après, mais en fait, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vachement long à commencer en fait, un espèce de slow burn bizarre que peut-être parce que c'était juste après un match qui allait à 1000 à l'heure et que j'étais encore un peu dans
les cordes,
dans le speed, et du coup, ça m'a surpris. Mais bon, après, voilà, comme j'ai dit, à partir du moment où il stunt là, par contre, ça avec Danielson qui essaye de placer toutes ses soumissions et Miro qui lui, Miro, il contre pas une soumission, juste il tabasse l'adversaire jusqu'à ce qu'il lâche. C'est original aussi. Et ouais, c'était super. La fin était vraiment super techniquement et au niveau storytelling. Et avec ce. Et Miro qui n'abandonne pas au final, hein,
qui passe out,
qui s'évanouit.
Tombe dans les vapes. Ouais,
j'ai bien kiffé. J'ai quand même au final l'appréciation globale plutôt positive. Très positive même.
Bah écoute, globalement, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai juste une espèce de moment de surprise. Je crois que Félix s'était partagé quand justement, et c'est que c'est signe que c'est réussi, quand il est tombé dans les vapes. Moi, je pensais qu'il avait qu'il avait abandonné, j'avais pas fait attention sur le moment qu'il s'était évanoui. Moi, pour moi, il s'était évanoui, il avait abandonné, mais de manière vraiment hyper abrupte, comme si on n'avait pas vu à cause d'un plan de caméra ou que sais-je. Mais en fait, non. Si on était un minimum attentif comme toi, on voyait qu'effectivement, il était tombé dans les vapes. Bah, comme je disais il y a quelques instants, pas grand chose à rajouter. Vraiment, je vous conseille de voir. C'est vraiment. Alors, contrairement à toi, Raph, j'ai été embarqué dès le départ. J'ai vraiment ressenti la violence du match très très vite. Bon, après, c'est vrai que les deux sont un petit peu des clients parfaits pour ça, pour vite te faire comprendre que bah, ça va en découdre, ça va faire mal. Et je trouve que ça n'a pas à rougir face à un autre match qui commence très vite sur les chapeaux de roue, dont on va parler d'ici très bientôt, d'ici quelques matchs. Une petite précision pour celles et ceux, parce que on sait que bah déjà vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Catch à Cast, et vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le train de l'AEW, qui je pense est vraiment un bon compromis pour des gens qui découvrent le catch. En tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a des petits termes techniques, hein, vous en faites pas, comme le mat wrestling, qui est en fait le fait de catcher vraiment au sol dans un héritage très très de la lutte gréco-romaine, on va dire, et puis aussi le fait peut-être quand on a tendance à dire pin, hein, c'est l'anglicisme pour le tomber de 3. Donc voilà, c'est des petits réflexes à avoir si vous nous rejoignez et que vous voulez avoir comme nous la passion catchesque, mais au bout d'un moment vous allez vous y faire, rassurez-vous, on fait un peu peur au début avec nos termes, mais on est sympa. Et ben on va continuer, je redonne le nom, Félix me dit fais la transition, surtout vu le groupe qui attend, je me serais dit qu'il allait peut-être prendre le pas, mais non. Christian Cage et le Jurassic Express, donc composé de Jungle Boy, le chouchou de Félix, ainsi que notre cher Luchasaurus, évidemment. Et c'est des tocs, hein, excusez-nous, on peut pas s'empêcher de renfreiner ça, contre les Super Click, donc Super Click, donc composé des deux Young Bucks et de Adam Cole, Baby, évidemment, avec un False Count Anywhere, donc on peut faire un tombé de 3 n'importe quel endroit, sur le ring, en dehors, sur l'arrière de la voiture de Pépé et Mamie, donc tout est possible. Et ben écoute, on va te laisser commencer là carrément, Raphaël, plutôt que de à chaque fois de démarrer la critique du match. Qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé?
J'ai bien kiffé, hein, après moi les False Count Anywhere, ça doit être ma stipulation préférée.
Ah ouais, d'accord.
Parce que ouais, en général, j'aime bien tout ce qui est, comme on l'avait dit dans un ancien numéro de Catchacast, tout ce qui est hardcore, tout ça, c'est plutôt ma cam.
C'est vrai.
Et du coup, sans être hardcore, le False Count Anywhere, c'est comme souvent imaginatif, vu que le tombé peut être effectué partout, comme tu l'as dit. Mmh. Et du coup, ça va dans les backstage, ça va dans les parkings, dans les cuisines, un peu n'importe où. Ça utilise un peu tout ce qui leur tombe sous la main. Et ça, moi, j'aime bien. Et du coup, ce match, j'ai bien aimé. Bon, c'était le bordel, mais pas trop non plus. Il y a eu tout le monde a eu le temps de briller, et il y a donc eu surtout cette mini histoire avec Christian Cage qui dit à Jungle Boy de faire un concerto sur Adam Cole au début du match. Et Jungle Boy qui hésite, qui prend. Donc pour ceux qui savent pas, que faut expliquer les termes. C'est mettre une chaise sous la tête de son adversaire et donner un coup sur la même tête avec une autre chaise.
Voilà,
un sandwich
bien chlassé,
de tête
quoi.
Et deux chaises. Voilà, un truc bien vénère, ça c'est bien vénère. Et Jungle Boy, il hésite, il sait pas trop, c'est quand même très violent, et bon, ouais. Du coup, il se fait rattraper, il se fait défoncer par je ne sais plus qui des frères Jackson, et qui du coup, en écho, à la fin du match, il va le faire, il va passer le cap de la violence, et faire ça. Limite, je me suis demandé s'il allait pas justement lâcher le truc, ouais. Prendre ses distances avec Christian Cage par rapport à ça.
Oui.
Mais non, du coup, il y est allé. C'est aussi.
En se regardant avec Félix, on s'est dit la même chose aussi.
Comment ?
On s'est dit la même chose avec Félix, en fait, en se regardant dans les yeux pendant le match, sans même parler. Mais... Et puis surtout, je pense que tu allais y arriver. Il est pas bien, quoi. Jungle Boy, à la fin.
Alors, tu sens qu'il y a un truc. Il est pas bien au début, puis après, bon, ils se font un câlin, le câlin victorieux, et ça va mieux. Tu vois, il est pas bien, mais pas très longtemps. Alors après, peut-être que ça va. Ils vont peut-être en reparler après.
Genre pas bien,
moi,
genre il pourrait glisser.
Justement, qu'il soit vraiment pas bien, quoi. Qu'il fasse la tronche malgré la victoire.
Oui.
Il s'appuie un peu plus là-dessus.
Quand je disais il est pas bien, c'est plus dans l'idée du sens du glissement comme un edge qui peut rester un peu en surface qui se tient, et puis le moment où il va complètement vriller et vraiment devenir the ultimate opportuniste, voilà, comme ceux qui connaissent.
Attends, on parle de Jungle Boy là toujours.
Non, je parlais d'Edge juste avant, comme exemple.
Non, mais là, par rapport
à... Oui, pardon, sur le parallèle que je faisais, je parlais toujours de Jungle Boy.
Voilà. Je vois pas du tout Jungle Boy faire un truc comme ça.
Ah, d'accord, ok.
Je pense, en tout cas, ce que je pense, c'est le mec, c'est le face ultime, le gentil ultime, mais je vois pas comment il pourrait le faire turn comme ça. Je vois plus limite que ce soit une excuse pour que Christian turn sur Jungle Boy.
Moi, je vais passer à mon interprétation, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un gros problème avec ce qui se passe avec Jungle Boy, en fait. J'en ai pas parlé à Mehdi, parce que je pense que ça l'aurait trop déçu. Non, je rigole. Mais si, j'ai un problème avec la narration de Jungle Boy, parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que sous l'égide de Christian Cage, qui lui n'a pas peur d'aller au-delà des limites d'un babyface, et de faire des concertos comme ça à ses rivaux, Jungle Boy, il avait du mal. Mais bon, il arrivait à se débrouiller quand même, mais il avait du mal à aller à cette limite. Et là, ce match-là, c'était un match initiatique pour lui de dépasser ce cap-là et de repousser les limites de ses valeurs en tant que personnage et de placer lui-même ce concerto, qui est quand même une manœuvre à la base de heel. Hein. Enfin, c'est Edge et Christian qui le faisaient pour en finir avec leurs adversaires quand ils étaient des vilains personnages. Et donc voilà, de passer de Jungle Boy à Jungle Man. Et puis en plus, depuis quelques semaines, il est en train de se faire une petite barbichette voilà, de bûcheron là, pour tourner la page sur son visage de bambin, parce qu'il est quand même assez jeune, hein, Jungle Boy, et vraiment de monter d'un cran sous le mentoring de Christian Cage. Mais pour moi, il manque des nuances. Déjà, Christian Cage, ça reste un babyface, jusqu'ici. Et il place un concerto comme ça contre Adam Cole, qui est le plus gros heel de la super clique, voilà, gratuitement. Donc déjà, je trouve ça un peu fort de café. Enfin, il aurait pu vouloir le faire, mais on l'en empêche, ou alors voilà.
Je vois ce que tu veux dire, mais ça fait quand même un moment qu'il les charge. Pour un peu argumenter sur ce que tu viens de dire, justement, ça fait quand même un moment qu'ils sont sur leur dos en termes de build sur les différentes éditions de Dynamite, voire de Rampage.
Oui, mais jamais ils ont vraiment dépassé une limite, tu vois, que ce soit verbal ou physique. Bon, ils ont été attaqués, mais c'est pas non plus, ils s'en sont pas pris à leur famille, voilà. Bon, un concerto, ça se mérite, en gros, quoi. Et là, pareil, quand Christian allait faire son concerto final dans ce match-ci. Je vois Jungle Boy dans son dos et je me dis non, il va lui prendre la chaise et il va dire non, c'est mal, on va pas le faire. En plus, c'était Matt Jackson qui était à terre, c'était pas Adam Cole. C'est mal, on va pas le faire, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme eux, quoi. Et là, il aurait pu avoir une construction derrière avec Christian qui lui dit non, mais tu comprends pas, si tu veux t'élever, il faut que tu dépasses certaines limites, etc. Là, c'était un peu trop facile, quoi. Et du coup, en plus, t'as la réaction de Jungle Boy derrière qui est vraiment contradictoire. Enfin, en tout cas, on sent qu'il est dans ses contradictions. Il dit ok, j'ai fait ça, j'ai gagné. Mais est-ce que je regrette pas, en fait, immédiatement de l'avoir fait? Et puis même dans le match, plutôt dans le match, il y a déjà Christian qui lui propose de faire un concerto et il est interrompu parce que Jungle Boy met trop de temps à hésiter, etc. Et là, finalement, c'est fait. Et donc, du coup, moi, j'ai peur que soit ce soit juste, voilà, t'es devenu un homme, t'es violent avec les autres, tu peux abandonner un peu tes valeurs pour battre ceux qui te cassent les couilles. Au lieu de t'élever au-delà de ça et de faire ce qu'il faut, mais de la bonne façon, entre guillemets, de la façon valeureuse au niveau moral. Et finalement, alors que ça pourrait devenir autre chose. Ça pourrait devenir, ouais, en fait, Christian, il l'emmène dans une mauvaise direction. Il va le séparer des Jurassic Express, qui eux sont des babyface, voilà, qui n'ont aucune tâche. Mais en même temps qui sont bloqués dans cette mid-card. Et l'argument de Christian, ce serait bah viens, je vais t'élever, je vais t'apprendre la vie. Mais du coup, c'est encore de la répétition aussi, parce que c'est ce qui se passe un peu avec Lio Rush et Dante Martin. Enfin voilà, soit ils veulent construire une histoire de Jungle Boy qui s'élève et qui devient un homme, entre guillemets, mais là, il faut le faire bien, quoi, si tu veux le garder en tant que top babyface futur. Ou alors, il faut assumer complètement, mais bon, à voir. À voir, voilà, c'est pour ça que ça me gêne un peu. Et après, sur le match lui-même, oui, c'était sympathique, c'était foutraque, mais sympathique. Et là, on avait le rose bonbon, hein, je reviens sur le rose, on avait du rose bonbon qui piquait les yeux avec les Jacksons. Et bon, il y avait des trucs spectaculaires, mais c'était toujours bien contrôlé, ils ont jamais fait des trucs suicidaires. Mais en même temps, c'était joli, quoi. On a eu un Shooting Star Press de Luchasaurus, quand même.
Ah oui,
c'est
magnifique.
Ça. Bah ouais. Voilà, en gros, à voir ce qui va se passer avec Adam Cole aussi.
Tout petit bémol quand même sur le match, enfin deux même, un peu trop long, au-delà de ce qu'on vient d'expliquer sur Jungle Boy. Je pense que 5 bonnes minutes de moins, ça aurait, ou quelques minutes de moins, ça aurait fait le job. Et par rapport à ce que tu disais, Raphaël, moi je trouve que cette fameuse dimension, on va en découdre, parce que assez souvent, hein, vous pouvez évidemment être en désaccord avec moi, mais je trouve que la stipulation Falls Counts Anywhere, donc où on peut faire un tombé n'importe où, il y a toujours une tendance un peu street fight sur les bords, ou en tout cas bagarre un petit peu. Et là, je trouve que ça a été amené. Le rythme était bizarre. Il y a eu toute une installation que justement j'ai trouvée trop longue avec les tables, etc. Même si les actions qui en dépendaient étaient incroyables. Et ensuite, on est arrivé très péniblement sur la rampe, etc. Enfin voilà, la jonction entre les deux, un petit peu en moins au début et un petit peu en moins pour arriver sur la rampe et finir, ça aurait gagné un tout petit peu à être polish et ça aurait été parfait, quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Raph. Félix me fait signe qui valide, et puis après on
Oui,
passera au match
après,
suivant.
ouais, je l'ai pas trouvé si long que ça au final comme match. Enfin, j'ai pas les durées là, en tête, ni notées, ni
Ouais,
nulle part. Hein. Mais
je.
je sais pas, après, ouais, chacun ses goûts. Moi, ça m'a
Toi, ça te convient.
pas
Ben,
dérangé.
parfait.
Tu me dis qu'il y a eu des installations longues avec les tables. Je les ai même pas vues, quoi, les installations de tables.
D'accord.
Par
Ben,
rapport à des
écoutez.
fois des mecs qui sortent deux chaises pour foutre une table au milieu avec une table par-dessus et des trucs sur les côtés et tout, là j'ai trouvé que c'était vachement digeste, justement. À moi, il y a carrément, je crois que c'est Luchasaurus qui se prend une table que j'avais même pas vue et j'ai vu personne l'installer, quoi.
C'est parce que Mehdi
Après,
regarde
la
pas
table
assez
surprise.
de deathmatch, en fait.
De quoi?
C'est parce que Mehdi regarde pas assez de deathmatch, en fait.
Ah, oui, ouais,
C'est pas
peut-être.
faux, peut-être.
Oui, et puis le dernier point qui fait que je suis d'accord avec Mehdi là-dessus, même si effectivement moi je me suis pas rendu compte du délire des tables pour le coup, c'est que c'était beaucoup plus un street fight que le street fight qu'on va avoir plus tard dans la soirée, quoi.
Ah oui, c'est pas faux, ouais.
Voilà.
Après, c'est vrai que c'était pas le Falls Count Anywhere le plus imaginatif. S'il y a comme eu un petit spot de Christian qui saute d'un balcon, enfin qui se laisse tomber d'un balcon, c'était un peu sympa.
Oui, c'est ça, oui, puis c'était
C'est
safe.
vrai qu'ils se sont pas tant baladés que ça, en fait. Oui, parce que c'est ça que j'aime bien, effectivement, le Falls Count Anywhere, c'est qu'il y a de la
Oui.
balade. Mais là, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient trois, il y avait six personnes en tout, donc ça fait beaucoup. Plus à
Oui.
poursuivre, tu peux pas suivre tout le monde, quoi. Ça, un Falls Count Anywhere, c'est mieux quand un contre un, quoi, classique.
Et puis c'était pas dans les conditions d'un stadium Stampede où ils ont
Oui,
pas le
ouais.
public et tout ça, ils ont une arène limite jumelle où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
Et puis Stadium Stampede, c'était préenregistré en plus, donc
En
ils
plus,
pouvaient
non,
vraiment faire ce qu'ils voulaient.
pas pour Double or Nothing, je crois qu'il y
T'es
avait qu'une
sûr?
partie qui était préenregistrée, mais le reste, c'était pas préenregistré, il me semble. Enfin bref.
Oui, peut-être.
On passe à la suite avec un tag team match qu'on attendait évidemment tous.
Surtout nous.
Voilà, c'est ça. Cody Rhodes. Il y a déjà Mehdi qui vomit. Et Pac qui ont vaincu les méchants Malakai Black et Andrade El Idolo dans un tag team match. Voilà, moi j'ai juste à dire une chose, c'est que Pac c'est un des top 5, comme disait Mehdi, au monde, ça le reste. Et Andrade qui
Ouais, c'est
montre
clair.
quand même des super choses. Mais les deux autres, alors que j'adore Malakai Black, hein, mais les deux autres, c'est pas trop ça.
Ouais, quand Cody ne catche pas, tout va, quoi. Pour reprendre une chanson d'Astérix pour les plus vieux. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Cody Rhodes, je n'en peux plus. Je pense que c'est la gimmick ultime sur le CatchaCast, surtout partagé par moi et Félix. Mais ouais, Pac et Andrade sont incroyables. Alors, moi, je trouve que je sens tout petit peu dur avec Malakai Black, que je trouve beaucoup plus, quand même, autrement plus carré. Mais voilà, sinon, honnêtement, c'est assez dispensable, sauf si vous êtes vraiment, je dirais, fan de Pac et Andrade, où vous avez vraiment envie d'être perfectionniste et voir tout le pay-per-view. Mais je trouve que c'est peut-être un des matchs les plus dispensables. Même plus dispensable, limite, que l'ouverture, quoi, que l'opener de. Ouais, bref. Que le pré-show, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Raphaël.
Eh ben, on me dit que je suis pas objectif sur FTR, mais alors vous, c'est pas beaucoup mieux, hein, sur
Non, non, c'est vrai, c'est
l'anticodisme
vrai.
primaire.
C'est vrai, non, non, sur Cody, il n'y a
Ah,
pas de souci, je
parce
perds
que
tous mes moyens.
enfin, non, c'est juste que je trouve que Dispensable, t'y vas un peu fort quand même. C'est vrai que c'était pas le meilleur match de la soirée, c'était peut-être même le plus faible, effectivement. Au niveau. Mais il y a quand même eu des belles choses. J'avoue, Pac, comme tu disais,
Ah oui, bien sûr.
Félix, je crois, Pac et Andrade quand même. Enfin, Andrade, en plus, ça me fait marrer, c'est un peu quand même JF, le mec se bat jamais. Mais quand il se bat, par contre,
C'est fou,
il a
ouais.
quand même
Ouais.
tendance à envoyer le plomb. Et ouais, Pac, j'adore, hein, il est vraiment trop trop bon. Et là, mais oui, je comprends pas, mais comment vous pouvez ne pas aimer Cody, quoi? C'est tellement un bon
Je
heel.
laisse Félix, c'est au-dessus de mes forces.
moi,
Non,
je...
mais moi j'adore. En fait, ça fait. Parce que j'étais comme
Oui,
vous à un moment.
dis-nous pourquoi t'adores. Voilà, c'est plus
Ouais.
important parce
En
que nous,
fait, j'ai.
on s'est déjà exprimé plein de fois dessus, alors que Raph, on l'a pas trop entendu sur Cody.
Au début, j'étais comme vous. Jusqu'à. Ou un peu après la promo avec Ogogo, la fameuse. Le fameux match tout bidon et la promo de merde qui allait avec. Contre Anthony Ogogo, avec les histoires USA contre Angleterre, enfin les trucs patriotiques sortis des années 80. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, il est en train de péter un plomb. Et après, quand il a commencé à revenir avec ses putains de manteaux aux couleurs des États-Unis et tout, et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Le mec, c'est Homelander, en fait.
Très bon parallèle. Celui sous cet
Franchement,
angle,
parce que
oui.
le gars se prend pour un face, alors que ça a jamais été un face, en fait, dans l'AEW, même dans l'AEW, tu vois. Au début, il était acclamé parce que c'est lui qui l'a monté, c'est grâce à lui, entre autres, que l'AEW existe. Et là, les gens, ils sont passés outre ce truc-là, et ils en ont marre de Cody, bah, comme vous, en fait. Et ils se mettent à le huer, comme on a vu ces dernières semaines et tout, et lui, il est en mode, il change rien, en fait. Il regarde un peu le public en mode, mais pourquoi, et tout. Et il change rien à sa façon de catcher, à comment il se met en avant, à tout ça, quoi. Et là, quand tu vois... Dans le match, parce que pour parler un peu du match, c'est entre Cody et Pac, ça c'est ils ont gagné, mais ça s'est quand même pas très bien passé au sein de l'équipe. Ils se faisaient des blind tags en mode vas-y, passe-moi le relais. Non, non, je te passe pas le relais. Bon, bah, je le prends quand même. Ça a pas arrêté. Et à la fin, Cody qui se prend par erreur Pac sur un saut à l'extérieur. Et qui du coup revient pas, il met super longtemps à revenir. À un moment, Pac veut faire le relais, Cody est pas là. Et ça c'est tellement une attitude de heel. Et ça me fait trop marrer en fait qu'il soit encore vendu comme un face, qu'il se vante lui-même en fait comme un face. Alors que j'ai l'impression que tout le monde a grillé que c'était pas le cas. Et enfin voilà, ça me fait bien marrer. J'espère que ça va arriver à un espèce de heel, mais qui est face dans sa tête en fait. Mais que ce soit assumé en fait. J'espère juste que c'est pas vraiment Cody qui est complètement aveuglé par son propre éclat, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Mais...
Si, t'es très clair. T'es très clair,
Et donc,
Baptiste.
ouais, parce que. Ouais, il se bat comme un. Il avait du coup, en fait, j'aurais quand même préféré qu'il perde, en fait, du coup.
Bah ouais.
Pour que ça clash entre les deux, alors que là, bon, bah non, bon, bah, ils ont gagné. Ouais, en face, Malakai et Andrade, bon, bah, ils passent
Oui,
un peu pour des clowns, et voilà.
mais c'est cool aussi que Paki gagne aussi, quoi.
Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est surtout qu'il n'y a aucun sens, quoi, hein, ce qui clash. Enfin, moi, le problème, c'est que Cody, là, il s'est tellement justement. Si on va jusqu'au boutiste sur ton raisonnement qui tient, hein, qui est hyper carré, c'est que en fait, il est fâché avec la terre entière, donc ça fait plus sens pour rien. Il est plus dans le délire d'élite. Il est plus dans un lien, peut-être avec Arn Anderson, mais c'est dans sa propre écurie. Il a même plus cette espèce de côté de tutorat pour les plus jeunes. En fait, il a vraiment plus rien. Alors après, dans ton raisonnement, c'est peut-être ça qui est intéressant et qui fait qu'il y a des gens qui sont encore à être dans une supposition qui pourrait être face ou quoi que ce soit. Bon, pour moi, c'est acté que ça fait un moment qu'il est et que lui, c'est plus que c'est un heel qui s'ignore peut-être, hein, un peu comme un Monsieur Jourdain. Mais grosso modo, alors je vais être un peu abrupt, mais comme on a tous nos coups de cœur et nos coups de gueule. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce mec-là ne m'intéresse pas. Et alors, je vais un peu dépasser le cadre du catch, on en a déjà parlé, mais dans ce qu'il vend, en fait, de lisse, de candidature à peine masquée pour de futures élections aux états-uniennes, mais réelles, hein, là, je précise pour ceux qui rejoignent, comme on disait, le train de l'AEW, c'est un mec qui se cache pas, je pense, entre les lignes de vouloir faire de la politique. Hein. Et je pense qu'il a les épaules pour, pas forcément sur les mêmes idéaux que je peux partager, mais il a les épaules pour. Mais voilà, c'est simplement ça. Et il y a un truc que tu as dit, Raphaël, qui est très intéressant. Tu disais là où d'autres éventuellement, en substance, hein, j'ai pas un copier-coller de ta phrase en tête, mais le problème de Cody, c'est qu'il se réinvente pas et je pense qu'il n'a pas les moyens de se réinventer. Cody, ça a toujours été un mec en mode situationnel, même quand il était l'époque où il a été à la NJPW, où il est venu mettre son grain de sel entre Kota et Kenny et tout. C'est toujours un mec vraiment qui se pose, entre guillemets, qui se pose là. C'est jamais un mec. Bon, après, j'ai peut-être pas suffisamment suivi vraiment toute son époque WWE, mais bon, et Félix est en train de se noyer pour avoir un droit de réponse, donc je lui tends le micro.
Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde. D'abord, sur ce que tu viens de dire, Mehdi, effectivement, C'est pas vrai, je pense que Cody, il a le moyen de s'inventer. Enfin, à la WWE, quand il s'est cassé le nez, il était à la base Dashing Cody Rhodes, et quand il s'est cassé le nez, il est devenu le fantôme de l'opéra et tout ça. Enfin, tu vois, il a recréé un personnage autour de ça. Stardust, il a essayé d'en faire quelque chose. Bon, là,
Mais
c'est pas.
maintenant.
Mais maintenant, effectivement, maintenant, son délire, c'est non, j'ai fait ma vie, entre guillemets, j'ai mérité d'être le héros de l'histoire. D'ailleurs, ça, c'est une réponse que je te fais à toi, Raph. Non, il n'a pas toujours été heel à la EW, enfin, même Kissinger ou pas. La EW, elle est née au contraire sur sa charge émotionnelle de babyface. Que ce soit All-In avant même que l'AEW soit fondée, où il gagne le titre NWA en hommage à son père et tout ça. Donc tout ça, c'est un babyface, quoi, qui gagne, qui pleure de joie. Même chose au premier, ouais, voilà, au premier show, au premier pay-per-view de l'AEW, il se bat contre son frère Dustin Rhodes pour régler leur compte, voilà, les tensions. Entre frères qui avaient été accumulés pendant des années, et ce match qui n'avait jamais eu lieu à la WWE et qu'ils arrivent finalement à faire, et au lieu de laisser Dustin prendre sa retraite, au contraire, il l'accueille les bras ouverts comme son frère, en mêlant leur sang ensemble et tout ça. Enfin, tout ça, c'est un babyface. Même contre Chris Jericho, tout le monde est derrière lui contre Chris Jericho. Bon, même move de babyface over the top mais ultime, il dit si je perds, je vous promets de sacrifier toutes mes chances futures au titre à l'avenir. Enfin oui, futur à l'avenir forcément. Donc non, pour moi il a pas toujours été ce heel qui se prépare ou ce heel qui s'ignore, etc. Là peut-être aujourd'hui, est-ce que parce que pour moi ça fait très longtemps qu'il s'ignore. Il a accumulé énormément de moves, je pense inconsciemment, de trucs qu'il fallait pas, d'entourage hyper nombreux qui fait très heel, de je suis plus riche que vous, mais je suis quand même votre héros du peuple, quoi, tu vois. Ou je suis hyper patriote et je mélange un peu tout dans mes promos au risque d'aliéner une partie du public. Oui, ouais, c'est dû en même temps de Macron, il me dit. Oui, c'est peut-être ça, mais on parlait de Charles de Gaulle la dernière fois. Vous écouterez notre précédent podcast. Et puis là, en ce moment, lui le dit lui-même, il dit non. Enfin, il a fait même une promo un peu aveu. Non, oui, effectivement, je suis un héros. J'ai tout pour l'être. J'ai une femme magnifique, etc. J'ai eu une cuillère en argent dans la bouche dès que j'ai commencé le catch. Oui, je fais des trucs à côté, etc. Mais je pourrais m'abaisser à plus bas. Et pourtant, je le fais pas parce que je suis un homme, un vrai. Et il dit même, je ne retournerai pas ma veste parce qu'il veut faire son John Cena un petit peu. Voilà, ça c'est moi, je suis comme ça. Soit vous m'aimez, soit vous me détestez. Et puis c'est tout. Et Tony Khan s'est exprimé pour la première fois, donc le président de la EW, hein, on le rappelle, s'est exprimé pour la première fois là-dessus et il a dit oui, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il turn juste pour répondre aux huées, parce que c'est plus intéressant comme ça. Donc peut-être que depuis quelque temps, ils assument le truc et ils veulent peut-être construire quelque chose derrière, mais c'est très récent. Ça fait des mois et des mois et des mois que c'est comme ça, que ça monte, que la sauce monte avec le public, etc. Et que ça vient pas de Cody Rhodes, quoi, que c'est inconscient. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est Rhodes to the Top, sa réalité, sa télé-réalité avec Brandi Rhodes, qui lui a fait voir certaines choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'on en parle. Mais je suis toujours pas convaincu là-dessus, ouais.
Ouais, je dirais à suivre globalement, mais c'est vraiment pas pour finir sur arrondir les angles, mais je pense que les deux opinions se tiennent. Hein. Après, c'est toujours ce qu'il y a d'assez magique dans le catch, c'est même avec moult argumentaires, on peut toujours arriver sur des coups de cœur un peu plus prononcés. Sauf si tu as envie de rajouter quelque chose après ces deux longues diatribes qu'on a pu faire tous les deux, Raphaël, on va continuer sur le match suivant.
Non, bah,
Ça te va?
chacun son avis, écoutez, je vous entends.
Ça...
Et que, de toute façon, s'il n'y a pas d'évolution dans 6 mois de Cody Rhodes,
Oui,
je serai le
voilà,
premier déçu et je
rendez-vous
comprendrai
dans.
probablement cet avis aussi. Hein.
Rendez-vous dans 6 mois. On arrive donc, tandis que Félix effectivement me fait signe, tel un Bernardo, que dans l'ordre des matchs, comme ça Raphaël pourra. Non, mais on va faire une double vérification. Normalement, oui, c'est ça. Nous avons le match pour le titre féminin, donc notre Dr. Dr. Britt Baker DMD du Morbier, comme on
du
a dit. Alors,
bon,
voilà, pour que vous sachiez tout, on s'est tapé un délire vu qu'on a mangé une raclette en même temps que qu'on regardait le Full Gear, donc ça explique ce jeu de mots foireux. Contre Ty Conti, donc elle est venue à bout d'ailleurs, et conservation du titre. Moi je vais être assez concis. Alors évidemment, ça marche bien dans le sens où le match est chouette, dans le sens où Jamie Hayter et Riba font toujours bien le job en mode sale coup et rigoloterie. Ribal qui à un moment pète complètement un plomb quand elle file son gant à Britt Baker et qui a commencé à hurler à la mort. Ça marche bien, on s'amuse bien, il y a du très bon catch, on a presque envie d'y croire, même si objectivement on sait quand même au fond de soi que voilà, Ty Conti elle est pas suffisamment encore là pour ravir le titre, et puis qu'il y a encore beaucoup de défense à faire, et que Britt Baker elle est tellement over the top que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, pas grand chose à dire. Je vous laisse, les amis, dire tout le bien ou tout le mal que vous voulez de ce match.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Voilà. voilà, c'était pas la panacée technique. Les deux, bon, Ty Conti, elle a énormément progressé. Et puis, elle a un bon background fighting. Hein. C'est du judo, je crois, qu'elle a fait auparavant.
Judo
olympique.
Et il y a un autre truc, jiu-jitsu, je crois aussi.
Jiu-jitsu brésilien.
Voilà, vous savez tout. Et puis Britt Baker continue de briller. Elle a même fait une entrée avec un guitariste et tout ça. Enfin, voilà. C'est vraiment.
Guitariste de Fozik, exactement.
De comment?
J'ai plus son nom, mais c'est le mec de Fozik.
Ah, ok. Bah voilà. On comprend
tout. Qui est le groupe de Chris Jericho?
Ouais. Évidemment. et donc. Ouais, voilà, match qui fonctionne très bien. Ty Conti, on sent qu'elle est là pour gagner. Enfin, elle s'est même drapée de son drapeau sur le visage, etc. Donc il y a vraiment un enjeu derrière. C'est pas juste une défense de titre comme ça. Et puis c'est pas juste cette histoire de tu fais que montrer ton cul, etc. Qu'on a entendu les précédentes semaines entre les deux, quoi. Là, c'était vraiment du sérieux. Et puis Ty Conti qui réussit à contrer plusieurs fois. La prise de soumission fétiche de Britt Baker et tout ça, donc il y avait quand même beaucoup de choses, et puis Britt Baker qui finalement réussit à l'emporter en filouterie, quoi, parce que voilà, faut quand même affirmer le fait que ça reste une heel, et voilà, on passera au prochain challenger, peut-être Thunder Rosa à l'avenir, ou peut-être je ne sais pas qui pourrait passer avant Thunder Rosa, mais en tout cas le règne continue, et voilà, enfin franchement, elle pourrait le rester encore longtemps, championne.
Ouais. Je pense qu'elle devrait rester encore un peu, effectivement, championne. Alors, moi, mon ressenti sur le match, bon, c'est un peu... comme je vous expliquais en off, j'ai regardé donc ce pay-per-view dans des conditions un peu spéciales, que pour des raisons parentales, je l'ai regardé genre en 3 ou 4 fois en morcelé, quoi. Et bah du coup, j'étais pas super dedans, parce que du coup, j'avais donc dû arrêter pour m'occuper de ma fille, tout ça, et recommencer quelques temps plus tard. Et en repartant là-dessus, et je sais pas, il y a un truc, j'ai pas été super embarqué dedans. Je trouvais que c'était un peu lent, un peu mou, et j'étais pas dedans. Après, il y avait quand même de la bonne action, hein, ça se laissait regarder. Mais voilà, et peut-être parce que aussi, comme vous disiez, il n'y avait aucun suspense, en tout cas de mon côté, je voyais pas comment Ty Conti aurait pu l'emporter, c'était juste impossible dans ma tête, donc voilà, je me suis pas super investi dedans, même si j'aime beaucoup les deux catcheuses, Britt Baker super heel et Ty Conti pas techniquement, elle
super
est
face.
Très solide, mais voilà, donc ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce match au final, malheureusement.
Et bah passons à la suite, et je m'en voudrais de ravir le micro à Félix, juste préciser simplement que j'ai eu un petit cafouillage parce que j'étais sur deux sites, dont l'un des deux est Cage Match et Carré en termes de répartition, mais un autre site sur lequel j'étais qui ne donnait que les matchs masculins. Donc voilà, c'est pour ça que Félix me regardait et me faisait des signes de la main en me disant mais non, c'est pas celui-là le prochain, tout ça. Voilà. Et donc maintenant, le prochain, celui sur lequel nous étions.
Et ben, c'était le match le plus attendu de la soirée. De moi, mais je pense de beaucoup de monde. Non, mais il y avait le main event, évidemment. Mais c'est tellement universel, j'ai envie de dire. C'était donc CM Punk contre Eddie Kingston. Voilà, les deux vrais gars. Ils sont réels, comme disait Maisy.
Jeunes surtout.
Et voilà, un match express en plus. Enfin, il a pas vraiment duré longtemps et c'était très bien. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Avec un backfist de Eddie Kingston direct sur CM Punk qui l'a mis KO, voilà.
La cloche, il me semble. En fait.
Oui, juste avant la cloche, effectivement. Et ils se sont fait du sale pendant tout le match. On a eu le premier sang donné par CM Punk sur un ring de l'AEW. En plus, CM Punk qui est arrivé en short un peu de MMA ou de kickboxing comme il les avait au début de sa carrière. Donc ça c'était symbolique aussi de la thématique de la rivalité, parce que c'était beaucoup de haine stockée, on va dire, dans les deux cerveaux en opposition, parce que Eddie Kingston en voulait beaucoup à CM Punk et à sa génération, entre guillemets, de ceux qui étaient un cran au-dessus de lui quand il avait commencé sur le circuit indépendant, qui prenait Eddie de haut. Voilà, qui pensait que c'était qu'une merde, qui valait rien, etc. Et CM Punk qui disait non, on pensait pas que t'étais une merde, on pensait au contraire que t'avais eu du potentiel, mais que tu réussirais jamais à l'atteindre, etc., à le réaliser. Et tout ça pour donner ce match. Enfin, les deux étaient géniaux au micro, ils ont réussi à faire un truc en impro spontané génial. Et sur le ring, c'était super, c'était plus de la bagarre que de la technique. Mais tant mieux, quoi.
Ouais, très clairement, là, que rajouter, hein, franchement, c'était peut-être mon match préféré, je pense, du show.
Bah, je te rejoins aussi.
Et ouais, expéditif, violent, et... rien de plus à dire, quoi.
Regardez-le.
Regardez-le,
en plus, vraiment...
Le petit côté à la fin... Petit côté où je me demande où ils vont aller avec Punk. J'espère que cette rivalité n'est pas finie parce que ça pourrait continuer à donner des trucs cool.
Surtout qu'ils se sont pas serrés la main.
Voilà, Punk veut serrer la main de Kingston et Kingston voit ça et se barre. Et je me demande si où ils veulent en venir avec Punk en fait.
C'est une vraie question. Et un peu c'est une bonne question.
Je te regarde de haut comme le dit Eddie Kingston. Ou maintenant que c'est lui qui est un peu au sommet du monde. Après ses 7 ans d'avance, il est. Il est chez lui partout. Je me demande, je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont continuer ou pas. Et s'ils continuent, ce que ça peut donner.
Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense que. Et puis en plus, moi déjà, j'avais vu venir le délire de. Tu vas voir qu'il va vouloir lui serrer la main pour faire le truc un peu.
Oui,
en
ouais,
plus,
oui,
très Ring of Honor aussi, hein, de serrer la main en mode code d'honneur, c'est bon, je te respecte. Et Eddie qui voit clair dans son jeu de. Non, mais je vois bien que tu continues à me prendre de haut. Avec tes grands airs, etc., c'est pas fini, quoi, tu vois. Et je m'en fous de ton respect, en gros. Moi, je suis pas venu pour gagner ton respect, quoi. Je suis un grand garçon, j'ai pas besoin de ton respect.
J'ai rien
ça
à
super.
Prouver, de toute façon. Il voulait juste lui faire fermer sa gueule, quoi. C'était...
Ouais. Et puis même CM Punk, qui, entre guillemets, inconsciemment, fait son John Cena avant de s'en rendre compte, dans le match. Quand il a commencé à faire ses coups d'épaule et puis après sa souplesse et puis après il lève la main comme s'il allait faire un five knuckle shuffle, un you can see me et tout. C'était super.
Bah d'ailleurs j'ai vu un truc, je sais plus où, sur internet, où il faisait un parallèle entre la promo entre Punk et Kingston du Rampage de la semaine dernière, je crois.
Mm-hmm.
Et un segment un peu pareil où justement c'était Punk et Cena, où c'était Cena qui prenait Punk de haut et Punk qui était un peu dans Eddie Kingston là. Oui, ils auraient rien un peu ça en inversant les rôles, c'était assez intéressant.
Je l'ai croisé aussi, c'était une des promos avant Money in the Bank 2011, il me semble. Où vraiment, CM Punk dit ses quatre vérités à John Cena jusqu'à le faire sortir de ses gonds et John Cena lui met une droite.
Oui, c'est ça, ouais, il attaque.
Et là, à Rampage, c'était CM Punk qui mettait un coup de boule à Eddie Kingston pour lui fermer sa gueule. Ouais, voilà. Et puis, ouais, du coup, on ne sait pas ce qu'on va attendre pour la suite, mais c'est bien, ça nuance un peu le personnage de CM Punk qui devenait
Oui, c'est
complaisant,
clair.
là. Avec ses Ah, vous êtes toujours content de me voir et tout, ça fait
Oui, le
plaisir.
CM Punk, gros smile.
Alors qu'on sait tous que CM Punk, c'est un gros connard rentré. Moi, j'ai beaucoup
D'ailleurs,
aimé.
grosse pop pour Eddie Kingston. Première fois que c'est
Ouais.
pas que l'intégralité de l'arène n'est pas pour Punk.
Ouais, tout à fait. Et en tout cas, ouais, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis hyper redevable à Félix par rapport à Eddie Kingston, que je connaissais que très lointainement et qui m'avait dit d'un air complexe une fois arrivé effectivement à la EW, et regarde, regarde, tu vas voir, gamin. Et non, non, blague à part, vraiment, c'est un type à non seulement à suivre, qui continue de, qui arrête pas de me bluffer en réalité. Qui tour à tour, avec le recul, effectivement, me donnait une sensation de kitsch avec ce final, effectivement, explosif. Lol, on vous invite à aller voir vos anciens pay-per-view, où il était effectivement à protéger les autres. Ce fameux final, on est venu le chercher sur le versant de sa famille, côté vraiment classique de genre du mec de New Jersey, quoi, avec qui on rigole pas avec la famille. Il a des origines italiennes d'ailleurs, ou.
Alors, il me semble qu'il est moitié portoricain, moitié black, je crois, enfin afro-américain. Je crois que c'est ça, ses deux origines. À voir. Mais je vous conseille justement, il en parle dans une super tribune qu'il a écrite cette semaine on vous mettra le lien avec le podcast où vraiment il se livre complètement. Enfin, il l'a déjà fait dans des docus, notamment de l'excellent Kenny Johnson. Mais là, il se livre à l'écrit. Où vraiment il parle de ses soucis de santé mentale, où il parle de sa passion du catch, où il parle de Moxley, parce que ça c'était un deuxième point que je voulais aborder, parce que Moxley, voilà, il devait participer à ce pay-per-view, enfin c'est Miro qui le remplace en fait contre Daniel Bryan, hein, enfin Bryan Danielson, pardon, et donc il n'est pas là parce que il est à l'hôpital, il a été hospitalisé, Moxley, pour son problème d'alcool. Donc je pense qu'il a écrit cette tribune, Eddie Kingston, en référence à son pote Moxley, qui vient de sortir un bouquin en plus, enfin voilà, où il livre énormément de choses, Moxley. Et je pense que voilà, tu parlais de CM Punk, de la suite, je pense que je ne sais pas quand Moxley reviendra, et c'est pas la peine de presser les choses, faut vraiment qu'il traite son truc à son rythme, mais il y a énormément de choses à faire avec Moxley Punk et Moxley Kingston et... Vraiment dire, nous on vient de l'Indé, on vient de la VVE aussi, et nous on est là, pas Kingston mais presque, on est là depuis le premier jour quoi. Donc tu vas arrêter de faire ta star, ton sauveur et tout ça, t'es pas le Messie quoi. Nous on était là pendant la pandémie, on était là, il y a plein de choses à faire. Et puis dernier truc, parce que je crois qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler, mais dans quasiment tous les matchs, non peut-être pas tous mais beaucoup, on a eu énormément de références à Eddie Guerrero. Énormément,
Ah oui,
dont
oui.
celui-là, des Tres Amigos, des Frog Splash, des petits secouants,
Les petits mouvements d'épaule.
voilà, parce que ça fait 16 ans, jour pour jour, que Eddie nous a quittés, Eddie Guerrero nous a quittés, voilà. Enfin, il y a une dernière référence, si, dans le match suivant, avec Chris Jericho, qui était apparemment très ému à la fin, mais on va en parler, voilà. Enfin, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter sur ce match.
Non,
Non,
pas
on a tout a été dit.
spécialement. Alors on va en parler effectivement, mais pas de la meilleure des manières, parce que donc match suivant, justement, après cette ode sentimentale et catchesque, un petit peu une purge, je suis désolé, hein, j'annonce mon feeling. Ten match tag team, donc match à 10, 5 contre 5, Minneapolis Street Fight entre The Inner Circle, donc Chris Jericho, Jack Hager, Ortiz et Santana, Sammy Guevara, contre The American Top Team, Andrei Arlovski, Dan Lambert et Junior Dos Santos, ainsi que les Men of the Year, Ethan Page et Scorpio Sky. Alors voilà, alors évidemment de vraiment, je dirais de vraiment solide et efficace du côté American Top Team, vous l'aurez deviné, on n'a que Ethan Page et Scorpio Sky de valables. vraiment, c'est pas pour enfoncer le clou, parce que l'autre zigoto, effectivement, a fait le concon, et parce qu'il a été désigné par Chris Jericho, bah, on savait que ça allait être que du comedy wrestling au mieux. Mais les deux autres qui viennent du Free Fight, c'est vraiment pas fifou, quoi. C'est très approximatif. Bon, après, c'est pas leur métier, on est d'accord, mais ça se cale assez mal globalement. Donc voilà, moi c'est vraiment la plus grosse purge de la soirée. Et je vais vraiment, je vais vous parler de la raclette, je vais vraiment donner tout l'envers du décor. J'ai carrément piqué du nez pendant le match. Voilà. Bon, c'est la digestion qui a pas dû aider, mais je pense que honnêtement, le match est vraiment pas là pour soutenir. Voilà. Bref, je m'arrête là-dessus. Ça donne une petite base dont on va pouvoir discuter. Raphaël et puis Félix t'emboîtera le pas.
Ça marche. Bah, une fois de plus, il va falloir que je nuance, hein, comme pour Cody Rhodes, je vois que t'es pas objectif. Non, je déconne. Alors, sans parler de purge, je m'attendais vraiment, effectivement, hein, au match de la gênance, quoi. C'est... Où t'as, ouais, trois mecs qui sont pas catcheurs dans une des deux équipes. Sachant que j'étais super étonné que ce soit ça, le co-main event, et pas Punk et Kingston. Et ça, je pense que c'est le côté, j'imagine, American Top Team qui doivent peser lourd niveau thune, donc peut-être qu'ils ont exigé d'être en comédie. J'en sais rien.
Je pense pas. Je pense que c'est juste le booking à l'américaine, un peu comme à la WWE où ils avaient la mauvaise habitude de mettre un match féminin avant le main event pour faire redescendre.
De calmer un peu,
voilà,
pour,
c'est ça.
Les gens soient vraiment chauds pour là. Ouais,
je pense
un
que
peu
c'est
con,
ça.
Mais bon, après, voilà, je suis pas booker, hein, même si je suis fan et que bon, quand on est fan, on est toujours. Il y a autant de booker que de fans, comme a dit je sais plus qui. Enfin bon, et du coup, au final, je m'attendais vraiment à rien, voire pire. Et bon, bah, j'ai été. Ça passait, quoi. J'ai vu que tout le début, c'était assez naze. Effectivement, Arlovski, ou je sais plus quoi,
Andrei Arlovski.
Il y a eu des trucs vraiment pas ouf, là. Je me rappelle notamment de Dos Santos qui fait un standing moonsault, qui a presque fait une Brock Lesnar, qui est retombé limite sur sa tête, quoi. Et pareil, le premier segment avec Arlovski contre Jack Hager, où c'était pas. Les timings étaient pas ouf. Vraiment, voilà, c'est... Mais bon, après, au bout d'un moment, peut-être c'est moi qui me suis dit, bon, allez, on s'en fout, c'est débilos, on va regarder, et puis voilà. Et puis ça se tapait dessus avec des grippins. Gros en face sur le grippin, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est un truc connu de Minneapolis ou pas? Vu que le gimmick c'était un Minneapolis Street Fight, ils se tapaient dessus avec des trucs. Du coin, donc il y avait quoi, des skidos et des crosses.
Ouais, il y avait des crosses de hockey.
Voilà, en fait, je trouvais ça débilo. Et sur la fin, ils ont enchaîné quelques grosses potes, dont Sammy Guevara qui saute d'une échelle super haute, qui était assez impressionnant.
À la Jeff Hardy,
exactement. Et du coup, voilà, je pense que j'ai mis mon cerveau en off, en fait. C'est comme quand tu regardes Fast and Furious, au final, c'est débile, mais.
Tu m'expliqueras voilà, comment tu fais.
J'ai un peu rigolé. Et encore, je suis méchant parce que j'adore les Fast and Furious bien plus que ce match. Mais bon,
oui.
Par contre, le vrai scandale, j'ai trouvé que c'était de faire gagner The Inner Circle. J'ai pas compris. Quoi. Parce que du coup, Ethan Page et Scorpio Sky, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais après, je suis content que l'Inner Circle ait gagné parce que ça suffit. Hein. Je suis content qu'ils aient gagné parce qu'on a une petite chance que ça s'arrête. Voilà, qu'on passe à autre chose. Parce que, bon, American Top Team, voilà, Dan Lambert, c'est donc le coach principal de ce team, de ce bootcamp, je sais pas comment on appelle ça, ce club, ce dojo.
Camp d'entraînement.
Voilà, camp d'entraînement, merci. De MMA, dont faisait partie notamment Bobby Lashley, par exemple, pour les connaisseurs. Entre autres, et un immense fan de catch, il fait son Jim Cornette en gros, hein, voilà, avec son survêt, voilà. Et puis les deux zozos qui l'accompagnaient, c'était des anciens champions UFC qui sont à la retraite, etc. Et puis on a eu par le passé Jorge Masvidal, qui est un champion actuel de l'UFC, qui avait mis un coup de genou à Chris Jericho, puis après on l'a plus jamais revu. Et puis Paige VanZant, une combattante MMA aussi, qui a eu beaucoup de promos avec Chris Jericho, mais là elle était absente, on ne sait pas pourquoi. Mais tant mieux, parce que les promos avec Jericho, c'était bas du front, voilà. On se disait avec Mehdi, mais putain... Qu'est-ce qu'ils vont faire de Scorpio Sky et Ethan Page? Heureusement, ils ont du temps d'antenne avec ça, mais ils méritent pas ça, quoi. Ils méritent beaucoup mieux. Surtout Scorpio Sky. même si Ethan Page est très talentueux, mais voilà, Scorpius Sky, ça fait longtemps qu'il est là, il mérite bien mieux. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait après de Man of the Year? Inner Circle, voilà, ils sont gagnants, mais bon, ils gagnent pas grand-chose non plus derrière. Enfin, Sammy Guevara, il va reprendre son rôle de champion TNT. Bah, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite, mais juste après, il y a Tony Schiavone qui a introduit la nouvelle grosse signature de la OW, et c'est Jay Lethal, ancien champion de tout ce qui pouvait être gagné à la Ring of Honor, et qui, suite à la prochaine inactivité de la compagnie, a été libéré de son contrat et donc arrive à la AEW. On vous reparlera sans doute de la Ring of Honor le mois prochain avec leur dernier show Final Battle. Enfin voilà. Et puis pour le match en lui-même, effectivement, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le début de match, c'était un match classique 5 contre 5. Je me suis dit, ah, finalement, ils ont enlevé le Street Fight. Peut-être qu'ils vont nous faire un 5 contre 5 à élimination avant les Survivor Series. Et puis après, non, en fait, tout le monde sort et puis on va sortir les grippins, les crosses de hockey et puis on va foutre le boxon. Voilà. Surtout que c'était très redondant par rapport au Falls Count Anywhere qui était beaucoup plus street fight. Parce qu'en plus, les babyface avaient des jeans et un jean, ça veut dire un street fight dans le catch. Enfin voilà. J'étais content que c'était terminé, mais c'était un peu la purge, ouais.
Mais en tout cas, oui, si tu arrives à vraiment à passer, je pense, ton cerveau en mode détente, en appréciant bah, le match pour ce qu'il est, ni plus ni moins, je pense que ça peut passer, mais c'est vrai que bon, c'est mauvais timing, hein, comme je disais, c'est pour ça que je vous donnais les circonstances. Hein, raclette et comédie wrestling mal rythmée ne font pas bon ménage. Voilà, c'est tout.
Non, mais ça, c'est juste que vous êtes des smarts, hein, c'est tout. Moi, je suis un vrai fan du peuple.
Des smarts qui font de la raclette. Non, non, voilà. Bah, en tout cas, laissons-nous cette étiquette de smart et allons au bout du bout jusqu'à l'infini et au-delà. Avec bah, le dernier match de la soirée, effectivement le match pour le titre AEW, Adam Page contre Kenny Omega, accompagné de Don Callis. Et donc, comme le dit si bien nos amis de Cage Match, bah, changement de titre, parce que effectivement, Adam Page est venu à bout de Kenny Omega. Bah, écoutez, je vais vous laisser commencer, messieurs, parce que c'est vrai que j'ai pas mal initié les matchs précédents, Félix.
Voilà, c'était le match qu'on attendait tous, le match qu'on attendait depuis le début de la AEW. Hein. On en parlait toujours, plus ou moins. On se disait oui, ça se dirige là-bas, enfin, dans cette direction. On savait pas à quel moment on allait la voir. On pensait que ça allait être à All Out plutôt cet été. Et je pense que c'était le plan initialement, parce qu'il y avait tout un truc sur le slogan du pay-per-view, c'était là où se font les champions. Et puis il y avait toute cette feud avec Kenny Omega et Hangman Page qui s'était ravivée au moment de l'été où Hangman Page avait repris confiance avec le Dark Order et leur amitié, où il avait recommencé à avoir des victoires sur Matt Hardy, etc. Donc sur Brian Cage, ces groupes-là. Et puis finalement, Page s'est absenté, donc ils l'ont un peu dégagé, Omega l'a un peu dégagé à l'écran, en mode non, t'es pas prêt, on te bat, t'auras pas ta chance contre moi, etc. T'es pas dans la même ligue que moi, mais en fait, en réalité, Hangman Page a eu son premier enfant cet été, donc il devait s'absenter de All Out, et donc ça a un peu, je pense, différé les plans de l'AEW. Et donc on l'a eu à Full Gear, il est revenu, il a fait la surprise à un match de l'échelle au Dynamite Anniversary, il me semble, où il a eu le gros truc de poker, le jeton, le petit jeton, où il a fait tomber Moxley de l'échelle, le geste symbolique de je me débarrasse d'un ancien champion pour prouver que moi je peux en devenir un.
Non, une blague.
Il fait des blagues, et c'est un blagueur. Et voilà, et donc on a eu un match entre les deux chargé d'émotions, alors que le build-up était pas si chargé que ça. Ils en ont parlé, notamment quand Hangman Page a fait sa promo, quand il y a eu la signature du contrat, ils ont échangé quelques mots, mais il y a énormément de bagages, quoi. Ça fait presque 2 ans que c'est prévu tout ça, hein, depuis que Hangman Page avait promis qu'il serait le premier champion du monde de la EW. Finalement, il n'a pas réussi, qu'il s'est éloigné de The Elite parce qu'il se sentait un peu le loser du groupe et qu'il voulait prouver sa valeur en dehors de ce patronage-là. Que finalement il a trouvé la réussite avec Kenny Omega en équipe, mais que les deux fonctionnaient pas si bien que ça parce que Kenny Omega lui donnait le bénéfice du doute, alors que Paige se noyait dans l'alcool progressivement, que voilà, et que finalement il a trahi un peu tout le monde sans le vouloir, qui s'est fait manipuler par FTR, que finalement le Dark Order a essayé de le recruter, lui il n'avait pas du tout envie de rejoindre un groupe, et finalement il a réussi à être séduit par le Dark Order, surtout après la perte de Brody Lee en fin d'année dernière, où finalement voilà, il les a rejoints, mais je suis pas avec vous, mais je suis pote avec vous quand même. Pour tout ça, je vous conseille une super série de vidéos là, qui a fait surface cette semaine. C'est The Good, The Bad and The Elite qui fait en plusieurs épisodes tout l'arc Hangman Page, plein de vidéos montées, etc., sans voix off, juste ce qui s'est raconté sur Being The Elite, sur l'AEW, par exemple il y a des citations de Dave Meltzer et ce genre de choses. C'est vraiment super bien fait. Ça résume vraiment bien. Et en plus, c'est un gars, j'ai appris ça, c'est un ancien, il s'appelle Brian Mann, le gars qui fait ça. Enfin, la chaîne s'appelle Outside Interference, je crois. Et Brian Mann, c'est un ancien de l'équipe créative de la WWE. Voilà, pour vous dire ce que regardent les scénaristes de la WWE, c'est la EW. Voilà. Et le match en lui-même, alors, ça a commencé un peu timidement. Voilà. Ça prenait un peu son temps, mais après on a vraiment eu du high level, on a eu des trucs très symboliques où Kenny Omega était un peu en mode automatique, ok c'est Paige, mais moi je vais faire mon match comme d'habitude, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et en fait si, ça marche pas, parce que Paige il le connaît par cœur, il arrive à lui contrer plein de prises, à reprendre le dessus, lui il a beaucoup plus de choses à prouver, donc du coup il a beaucoup de feu en lui, il le défie, il lui met une lariat, il l'atomise, il enchaîne toutes les prises, il lui met même un one-winged angel. Et Kenny Omega est le seul catcher après Moxley, mais bon, Moxley c'était dans un contexte différent, hein, Révolution. Il faut écouter notre podcast là-dessus pour savoir. Mais c'est Omega qui s'en sort de sa propre prise. Enfin bref, et tout ça finit avec les Young Bucks qui arrivent au ring, parce qu'évidemment il y a Don Callis qui fout la merde, mais Paige s'en sort, et puis les Young Bucks arrivent et on croit qu'ils vont aider Omega évidemment, et puis il y a un petit échange de regards avec Hangman Page et tu vois que Matt Jackson il dit vas-y, allez. En gros, ça suffit, il a fait assez de conneries comme ça, il a besoin de vacances Kenny, il faut qu'il se repose. Et puis voilà, et puis le Dark Order qui vient évidemment le soulever et célébrer la victoire de leur cowboy préféré. Bon, voilà, c'était très beau. En plus, le match n'a duré que 25 minutes, je vois ça sur les résultats. Enfin, que 25 minutes, c'est très bien. Mais c'est pas non plus excessif. C'est pas un main event de la New Japan qui dure 40 minutes où on n'en voit plus le bout. Voilà, c'était très, très bien. Il n'y avait rien à dire, quoi.
Raphaël.
Bon bah ouais, t'as tout dit Félix, écoute. Hein.
Bah bravo.
Bravo, qu'est-ce qu'on fait nous derrière? Bah,
on va boire des coups pour fêter là.
Non bah ouais, pas grand chose à rajouter, hein. C'était que des émotions.
Oui.
Du début où Omega arrive au ring et il y a un mec dans le public qui avait un panneau au premier rang. Qu'aurait dit Kota, il y avait marqué sur le panneau What
oui,
Would Kota
Say. Félix me l'a fait remarquer.
Qui s'arrête et qui regarde ce panneau avec une gueule en mode Parce que du coup, vu qu'au dernier Rampage, il avait. Non, Dynamite, Hangman avait fait référence déjà sans le citer à Kota. Ça, déjà, rien que ça.
Tout à fait,
déjà,
oui.
Rien que ça,
à la signature, ouais. T'as jamais réglé tes trucs
et du
en
coup,
duo.
Pareil, ouais, donc je vais pas redire tout ce que t'as dit sur le match, mais ouais. Hangman qui fait un Wing Angel, Omega qui fait le Buckshot, tout ça. Enfin, c'est. Et du coup, en fait, moi, je regardais le match et j'étais un peu dans une espèce de cold tart, un peu dans les vapes comme ça. Alors je sais pas si c'est parce que je venais de m'en sortir avec les couches merdeuses, je parle pas du match d'avant, c'est par rapport à ma fille, et que j'étais fatigué, que c'était déjà le quatrième tronçon que je regardais, voilà. Mais après j'étais un peu comme, tu sais, comme quand tu finis un jeu vidéo,
ouais, dans
et
du coton un peu,
c'est que t'es là en mode ah bah ça y est c'est fini, ouais. Ah putain c'était cool quand même. Et là, je me dis, bah voilà, c'est cette storyline de 2 ans s'arrête.
Ouais.
Et j'aurais voulu que ça continue, limite. J'étais pas sûr que. Je me doutais qu'il allait gagner Paige, mais j'étais pas non plus sûr. Et je me demandais, mais je suis pour qui au final? Je suis pour Paige parce que putain, merde quand même, quoi. Ou je suis pour Omega, histoire que ça continue, que Paige retouche le fond une quatrième fois et qu'il remonte. Mais bon, ça aurait sûrement fait trop, je ne sais pas.
Ça aurait fait trop, ouais. Ouais, je pense que ça
Et
aurait
voilà,
fait
et à la
trop.
fin, il gagne, et il y a le Dark Order qui vient, qui lui tend une bière, il lui prend
Ça,
la
c'est
bière, il
génial.
la jette, et ils se font
Ouais.
un câlin. Est-ce qu'il s'est sorti de ses problèmes
Oui.
d'alcoolisme ou pas? Ben, est-ce que vraiment c'était un problème, l'alcoolisme? On sait même pas, ça se trouve. Tu vois, comme tu dis, les Bucks qui font le petit Matt, qui fait le petit regard en mode vas-y, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que depuis le début, en fait, c'était le plan des Young Bucks de jouer les connards pendant un an pour remettre. Pour construire Hangman, pour qu'il prenne confiance en lui, pour battre Kenny, pour remettre Kenny dans le droit chemin, si ça se trouve. Ah là là,
C'est pas
quel match,
impossible,
je ne
ouais.
sais pas, mais
Ouais.
c'était fou.
Sachant que dans les recaps, il y avait aussi ce fameux moment hein, qui a été signature où on s'était tous dit on attendait le vrai clash au sens où Kenny allait lui mettre un coup, qui est le truc peut-être le plus vulgaire à faire, hein, vulgaire vraiment au sens commun, c'est-à-dire de schlasser son coéquipier pour dire vraiment que ça marche plus entre nous. Mais en réalité, il l'avait pas fait hein, à l'époque. Hein, on rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi là, depuis le début, ils étaient en champion tag team par équipe et il l'avait laissé en fait tomber alors qu'Hangman voulait tomber dans ses bras pour qu'il le soutienne. Et littéralement, et en réalité, il l'a pas fait. Ouais, c'est génial ce que tu dis, Raphaël. Le fameux fin d'un jeu vidéo, c'est un peu ouais, comme les jeux d'arcade, thank you for playing, enfin, thank you for watching, merci d'avoir regardé. Et moi, je vais simplement enfoncer le clou sur un truc, je vous entends beaucoup dire, ça fait genre plus de 2 ans. Pour moi, alors c'est vraiment un tout. Alors évidemment, pour ceux qui nous écoutent, comme on dit depuis le début, qui prennent le train en marche, les différentes fédérations de catch, etc. On aura des petites surprises d'ailleurs à vous présenter d'ici peu avec Félix pour reprendre le train en première classe. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien plus de 2 ans. Pour moi, c'est depuis les débuts de Be The Elite à la NJPW et la ROH, et justement tout ce qui a amené à la construction de l'AEW et où Hangman Page avait déjà ses problèmes de confiance, d'assumer qui il était, son talent, etc., qui déjà à l'époque crevait l'écran, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'est vraiment intéressant de voir, Félix est un petit peu, je redonnerai le micro pour conclure, est un petit peu moins d'accord sur crever l'écran. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était vraiment un super ascenseur émotionnel qu'on peut tout à fait prendre en marche, soit par les récaps si on rentre actuellement dans la AEW, parce que on voit des signes qui sont suffisamment flagrants, fins, c'est très bien ciselé, c'est très sobre, le match manque absolument pas d'intensité. Vraiment un match à recommander au sens large du terme sur quelqu'un, le classique, si vous deviez faire comprendre que le catch peut faire passer des émotions, bah voilà,
Je suis
ça
pas
en
tout
est
à
un.
fait d'accord, je me permets de
Oui,
t'interrompre
je t'en
parce que
prie.
c'est un match à recommander, mais dans sa story globale. Et c'est compliqué justement d'apprécier ce match, je pense. Enfin, de l'apprécier vraiment. Si t'as pas vu tout ce qu'il y avait avant, si tu connais pas les différents protagonistes, les liens qu'il y a entre eux.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je disais vraiment avec un bon récap comme celui que nous proposait justement
Oui, oui,
Félix tout à l'heure. Mais
effectivement.
t'as raison
Et
de
encore, même
préciser.
avec un récap, t'auras pas la charge émotionnelle, je
C'est
pense,
sûr,
pour
mais ça
t'investir à
vaut.
100%
Ouais,
dedans.
c'est sûr. Mais ça vaut pour pas
Et par
mal
contre, je
d'arcs.
voudrais, oui,
Oui,
excuse-moi,
mais je t'en prie, je
je
t'en
voudrais
prie.
aussi vous poser une question du coup.
Yes.
Est-ce que vous pensez que, du coup, pour le futur, Hangman, il va avoir les épaules, du coup, pour être champion? Parce que moi, c'est un truc que je me
C'est
suis dit,
moi aussi.
autant ces promos d'avant, elles m'ont plutôt séduit, mais quand je l'ai vu avec la ceinture à la fin, je me suis dit, je sais pas. En plus, je crois que c'est le seul champion AEW qui a pas gagné des ceintures avant, dans d'autres promos avant. C'est son premier championnat, il me semble. À part si, bah, ceinture par équipe, tu me diras.
Je vais répondre en un mot, dubitatif, et je vais laisser la parole à Félix, parce que non seulement il va te répondre, et en plus il va pouvoir répondre au fait qu'il n'était pas totalement d'accord que Hangman Page crevait l'écran avant il devient fou.
Non, si, qui crevait l'écran, si. Bon, voilà, il a été jeune catcheur lui aussi. Il n'était pas charismatique dès le début, mais charismatique. Mais non, non, c'est pas par rapport à ça. Je disais dans Being the Elite, rappelle-toi, avant All In, par exemple, il a quand même été un tueur psychopathe. Il a quand même tué Joey Ryan, voilà, on le nomme, mais
oui,
bon.
Oui, ça, d'accord, mais.
Enfin voilà, c'était pas genre le destin dès le début, en tout cas pas ouvertement. C'était plus, voilà, on fait quelque chose, on développe la personnalité de Hangman Page, on lui fait faire des trucs.
je dis pas qu'il a pas de personnalité, hein, j'adore Hangman Page. Mais est-ce qu'il aura les épaules pour être champion ?
Ça c'est une autre question, effectivement. Moi, je pense qu'il est tout à fait prêt pour être champion. Il l'a prouvé dans sa promo post-victoire du jeton, où vraiment il a pas bégayé. Il a délivré ce qu'il devait délivrer avec émotion et force et clarté. Enfin, et puis sur le ring, il est super. Le personnage est complètement suivi, nuancé. Enfin, on a eu énormément de développement de personnalité, de personnage, pardon, de psychologie sur Page. Donc, on sait à quoi s'attendre pour ceux qui suivent la EW depuis quelque temps. Voilà. Et puis, il est super populaire. Enfin, vraiment, il est le champion babyface que tout le monde voudrait avoir dans sa promotion. Alors, effectivement. Ça, c'est un point à soulever. C'est le premier champion AEW qui n'a pas été une grosse star ou un champion du monde avant, ailleurs. On avait Jericho.
Enfin,
oui,
j'ai envie de dire
enfin,
aussi.
C'est la première vraie top star créée par l'AEW. Ça, c'est merveilleux quand même. Quelque chose à marquer d'une pierre blanche. Et il y a donc beaucoup de questions qui se posent. C'est quoi la suite pour Hangman Page ? C'est quoi la suite pour The Elite, c'est quoi la suite pour Kenny Omega, mais c'est bien aussi de laisser des questions en suspens et de voir se développer des choses. Hangman Page, il aura sans doute un match contre Bryan Danielson, donc ça c'est des trucs voilà, à construire derrière, ça peut être très intéressant. Adam Cole, évidemment, il y a quelque chose qui attend d'être fait avec les deux. Puis il y a une batterie de heel très capable à la EW pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis moi, je pose ma petite prédiction là. On parlait de Cody plus tôt. Moi, je pense que si vraiment ils font quelque chose de Cody en heel, d'annuler sa clause de sacrifice pour détrôner Hangman Page, ce serait magnifique. Ce serait les plus grosses huées qu'on aurait jamais entendues, je pense. Mais. Après, il faut que ce soit bien fait. Mais je laisse l'AEW avec grande confiance là-dessus. Mais voilà, oui. Enfin, je crois que j'ai tout dit. C'est merveilleux.
Unbelievable. Écoutez, on en arrive au bout de ce récap. Merci, messieurs.
Et sinon, du coup, attention, arrêtez tout aussi.
Attention.
Je viens de voir un message d'un autre membre du Kachakas qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous en vocal ce soir. On a oublié. Il y a Ishii qui va être au prochain Dynamite.
Ah oui, mais oui.
Putain, bien alors sûr. Ça, quand ils ont annoncé ça, j'étais comme un fou.
Gardons-en sur le coude et pas tout seul. Hein. Il va être avec.
Bah ouais, alors malheureusement, il est en équipe avec Orange Cassidy.
Moins... Toi, tu vas avoir des problèmes, toi.
Ah, je savais que ça
chacun son tour, t'as raison. C'est, c'est de.
Après, j'ai aussi toute une diatribe sur Orange Cassidy, mais bon, là, c'est pas le.
Et bah justement, on la gardera pour peut-être ce récap-là ou autre chose avec plaisir, tu le sais. La porte est grande ouverte. Félix, Raphaël, merci beaucoup à tous les deux.
Pas de rien.
On se retrouve comme d'habitude, enfin vous nous retrouvez sur Twitter et Facebook pour les messages en tout genre, les annonces d'émissions, les petites infos, les petites pastilles rigolotes que Félix décarcasse en plus du montage à vous faire. Merci vraiment à lui. Merci à toi, Raph, malgré la dimension très mouvementée, comme tu nous l'as dit tout au long de l'émission.
Ouais, y a pas de quoi, ça me fait plaisir.
On salue par l'esprit, effectivement, elle n'est pas morte, tout au plus de fatigue. Laure, évidemment, qui sera, je l'espère, avec nous sur la prochaine émission.
Des bisous à vous et à tous les auditeurs.
Eh bah, c'est parfait, c'est partagé. Salutations à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Kachakas. Ciao.
Ciao.